France Musique.
Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel.
Vous aimez Mozart ?
C'est lequel ?
Le dernier.
Je veux dire que j'ai pas de pot avec la musique.
T'en fais aussi ?
Moi, plutôt crevé.
Vous croyez pas que c'est un peu réservé à une certaine élite ?
France Musique.
La 4 saisons n'est pas qu'une pizza.
Saskia Deville.
Tout ça ne serait-il pas réservé à une certaine élite ? Questionne cette voix dans notre générique. Eh bien, non. La musique appartient à tout le monde et la musique classique n'a jamais été aussi accessible qu'aujourd'hui. Il n'y a qu'à ouvrir vos oreilles, vos yeux, il n'y a qu'à être attentif pour constater qu'elle s'est glissée parmi toutes ces petites choses de la vie. La salle d'attente de votre dentiste, les couloirs du métro, votre portable ou encore un nombre incalculable de films que vous avez vus. Sous prétexte d'a priori, ce serait vraiment dommage de s'en priver, non ? Notre invité nous rapporte d'ailleurs cette légende hindoue, l'univers a une note de musique, chaque être humain a une note de musique, et quand on la trouve et qu'on l'accorde avec celle de l'univers, alors on ressent la splendeur du monde jusqu'au plus profond de nos cellules.
Bonjour Saskia.
Quel plaisir de vous accueillir en compagnie de Claude Debussy, l'une de ses estampes, Jardin sous la pluie, joué par Víkingur Ólafsson, que vous avez choisi pour nous, André Manoukian.
Mais oui, il les défonce les jardins sous la pluie.
C'est sûr. Ça réveille, hein, oui.
Ça réveille, ouais. C'est plus, là, c'est pas les petites gouttes tristes et tout, là, c'est waouh. On a envie de, j'allais dire, on a envie d'envahir la Pologne, mais c'est une...
Si ça c'est pour Wagner plus
oui,
tard.
C'est ça.
Pianiste, auteur, compositeur, arrangeur, organisateur de festivals, chroniqueur, ce sont vos professions multiples, vos passions multiples. Votre passion pour l'histoire de la musique qui a commencé par quoi ? Le piano ?
Oui, le piano. En réalité, j'ai qu'un seul métier, je suis musicien et j'exerce plusieurs activités mais qui ont toutes un rapport avec ça. J'ai appris il n'y a pas si longtemps que même Claude Debussy, sous le pseudo de Monsieur Croche, écrivait des chroniques. France Inter n'existait pas à l'époque, mais il aurait été ni France Musique, il aurait été un excellent chroniqueur, j'imagine.
Vous auriez aimé justement collaborer avec Debussy, dans ce cadre-là peut-être ?
Oh la vache, je ne sais pas ce que j'aurais aimé faire avec lui, mais le regarder, être un peu dans sa tête, écouter ce qu'il écoute, voir ce qu'il a influencé. J'essaie toujours de savoir d'où ça vient. Et c'est pour ça que je tire toujours en fil. Et c'est pour ça que moi-même, quand je parle d'une œuvre, de quelqu'un, d'une musique, j'essaie de voir d'où ça vient. Et je remonte jusqu'aux hommes préhistoriques, quoi. Donc c'est chaque fois un peu long.
Mais si on revient à vous, oui. D'où ça vient justement ? Qui vous a mis au piano ?
Il y a toujours eu un piano à la maison. C'était le piano de mon père. Mon père était tailleur pour dames. Et il travaillait avec ma mère. Il rentrait tard du magasin et moi, quand je rentrais, je jetais mon cartable et je me jetais sur le piano. C'était ma console de jeu de l'époque. Mais je l'entendais jouer les inventions de Bach et il les jouait un peu scolaire, pas bien. Et ça, c'est très important. Parce
ça vous a stimulé ?
Bah ouais, je me suis dit, c'est prenable. Donc j'ai commencé le piano à l'âge de 6 ans avec le professeur Cyrano Sian, qui est le papa d'Astrig à Lyon, qui donnait des cours avant de partir prendre la direction du conservatoire de Romans.
Astrig, Cyrano Sian, la violoncelliste.
Voilà, c'est ça. Et du coup, je l'entendais jouer ça et je me disais, c'est jouable. Et là, la première... Et en plus, il ne jouait que la première invention. Il était resté scotché.
C'était très répétitif.
Mais Ça suffit pour faire toute une vie de musique en réalité. Et du coup, bah voilà, et quand j'ai commencé à bien jouer, il a arrêté. Et moi, par contre, j'ai dégoûté mes trois gosses parce que des dégueulis de notes dans tous les sens, ça, ils comprenaient rien du tout. Et bon, voilà.
Mais bon, vous la partagez avec le plus grand nombre. Exactement. La musique, finalement, vous rattrapez d'une certaine manière. Quelle est votre définition de la musique classique, André Manoukian ?
Alors, je déteste ce mot, musique classique. Moi, je suis comme Duke Ellington qui disait, il y a deux genres de musique, la bonne et la mauvaise. Pour moi, la musique classique, ça veut rien dire. C'est une académisation très 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 horrible qui a eu lieu à la fin du 19e siècle. À l'époque, on a commencé à tout figer. Cette époque est vraiment funeste, je pense, pour les arts. On a commencé à tout mettre dans du formol. On a appelé nos écoles de musique des conservatoires parce qu'on a eu la notion d'un patrimoine soudain, alors qu'avant, la musique avançait à tel point qu'on ne jouait pas la musique des morts. Donc, il fallait sans arrêt faire du neuf. Et tous les musiciens dits classiques étaient de furieux jazzman, c'est-à-dire qu'ils improvisaient, Bach improvisait, Mozart improvisait, Haydn, Beethoven, quand il faisait des pianos solos, 80% c'était de l'impro. Parfois, il y avait des gens qui lui chantaient des airs et il improvisait dessus. Et puis tout d'un coup, à la fin du 19e siècle, on a arrêté d'apprendre l'improvisation, on l'a figé, on a dit aux musiciens maintenant, vous n'êtes plus que des interprètes, voilà. Et on les a transformés en lecteurs, on leur a enlevé la moitié du cerveau. Donc moi, ma définition de la musique classique, c'est une aberration de dire musique classique. C'est comme si on disait musique surgelée ou musique figée ou musique académique. J'ai horreur de ce mot. Par contre, j'ai un amour immense pour nos prédécesseurs et on a un saint patron qui est au-dessus de la mêlée, c'est Jean Seb, quoi, voilà.
Jean Seb ou Jean-Sébastien Bach, l'aria de ses variations Goldberg, jouée ici, enregistrée en 1955 par Glenn Gould, que vous avez choisi pour nous, André Manoukian. Glenn Gould a alors 22 ans.
L'affreux Jojo qu'on entend marmonner derrière.
Oui, exactement.
Il ne pouvait pas s'empêcher de le chanter. Il y a un autre qui était comme ça, c'était Keith Jarrett. Enfin, voilà. Alors ça veut dire juste deux choses. Ça veut dire que le piano est un instrument avant. Il faut respirer. C'était d'ailleurs la première.
Tous les instruments d'ailleurs.
Exactement, c'était la première leçon de mon maître de musique, Alexandre Tyrannossian. Mon premier cours de piano, j'ai 6 ans, et il me fait lever les mains pendant une demi-heure sur mes genoux et les reposer comme ça, en disant « ouf, ouf ». Et j'ai jamais touché le clavier, dans cette première leçon qui a duré une demi-heure. Et j'ai compris 20 ans plus tard, quand à Boston, mon prof de piano m'a donné un bouquin sur le yoga quand je suis rentré, et je lui demandais juste les derniers accords qui tuent. Donc ça veut dire qu'il faut respirer, donc c'est pour ça que je veux bien comprendre que Glenn Gould ait besoin d'expirer la mélodie, de l'exsuder. Et voilà, et alors les variations Goldberg, ben c'est un monument avec un air très simple, celui qu'on vient d'entendre.
Pourquoi c'est un monument ?
Parce que c'est Bach libre de toute contrainte. C'est un jeune étudiant qui vient le trouver, qui lui dit « je dois jouer du clavecin pour endormir un insomniaque, je sais plus quoi jouer ». Il dort pas, le gars. Toute la nuit, je dois jouer. S'il vous plaît, donnez-moi de la cam, quoi, en gros. Et Bach se lâche. Alors, il fait cette aria très simple. Et après, mais ça part en sucette, hein. Il y a 30 variations. D'ailleurs, il y a un pianiste de jazz génial qui s'appelle Dan Tepfer qui a repris ce projet. Il a fait les 30 variations, donc des variations Goldberg. Plus, il rajoutait à chaque fois ses impros de jazz. Au bout d'un moment, on ne sait plus qui est Jean-Seb et qui fait du jazz, quoi.
Mais c'est tout, comment dire, le génie d'un interprète qui peut donner sa propre vérité.
Qui peut surtout jouer comme il l'entend. Et c'est ce qu'on entend dans Glenn Gould, c'est pour ça que je l'adore. Il a un phrasé qui est unique, il a une manière de revoir les tempos qui n'appartient qu'à lui. Il revisite purement l'œuvre, il n'en a rien à péter des standards. Et il a des ornementations qui sont tellement déliées qu'on... Waouh, il vous suspend, là j'étais encore surpris. Chaque fois qu'on l'écoute, on redécouvre quelque chose.
Alors je vous propose de vous raconter une histoire pour vous tenir encore en éveil. André Manoukian avec d'autres interprètes, l'Orchestre Philharmonique de Vienne et Herbert von Karajan à la direction. L'histoire est bien de Tannhäuser, chevalier ensorcelé par la déesse de l'amour qui rejoint le château de la Wartburg, où vit Elisabeth, celle qu'il aime. Et là, un grand concours est organisé, ça va vous parler aussi, grand concours de chant. Celui qui gagnera ce concours, eh bien, obtiendra la main d'Elisabeth. Et il se trouve que Tannhäuser possède une voix particulièrement belle.
Thank you.
l'ouverture de l'opéra Tannhäuser de Richard Wagner, opéra créé en 1845. Wagner qui puise dans la richesse de l'orchestre symphonique toute cette puissance dramatique. André Manoukian, il y a quelque chose de fascinant.
Mais il y a la magie des accords qu'il fait, quoi, de ces modulations. Il part avec un appel de quarte. L'appel de quarte, c'est le début de la Marseillaise. C'est un espèce d'élan comme ça. Puis tout d'un coup, il passe en mineur. Et du mineur, tout d'un coup, il va au majeur. C'est-à-dire qu'il nous balade émotionnellement d'une manière de dingue. Alors c'est Beethoven qui a commencé déjà ce principe de faire des accords diminués, très sombres. Et puis tout d'un coup, d'ouvrir sur du majeur, de nous faire ce... Ah, ça va... C'est ces trucs de fermeture, de crispation et d'ouverture sublime. Mais Wagner, il fait la même chose, mais en nous faisant monter des paliers, comme s'il était en train de nous ouvrir les yeux sur le monde aussi, celui-là. C'est incroyable. Alors autant ces ouvertures, mais je les trouve sublimes, autant quand les Valkyries chantent, là, évidemment, alors voilà, c'était la vanne de tout à l'heure, ça me donne envie d'envahir la Pologne. Je suis pas vraiment sensible à toutes les histoires qu'il va raconter, et cette espèce de mythologie du peuple allemand qui n'a jamais existé, et ces dieux qui ressuscitent et dont on va se servir plus tard à des fins les plus funestes. Mais c'est ça qui est drôle, c'est que la nation allemande n'existe pas, elle est complètement éparpillée. D'une certaine manière, c'est lui qui va donner corps à tout ça, mais ce qui est fou, c'est ces intros qui sont d'une poésie incroyable.
Et qui sont très souvent utilisés au cinéma.
Oui, d'une certaine manière, je disais que c'est lui qui a inventé la musique de film en abolissant d'une certaine manière la tonalité. La tonalité, c'est que vous êtes dans un ton, puis après on module soit la tierce mineure, enfin bref, on va pas embêter les amateurs de pizza avec tout ça, mais simplement, tout d'un coup, lui, tout se met à flotter, il n'y a plus de repères. Et du coup, c'est là qu'il nous embrouille, et c'est là qu'on est à sa merci. On est ravis à nous-mêmes.
France Musique, Saskia Deville.
André Manoukian, j'étais très surprise en recevant vos choix musicaux. Je sais que vous êtes un grand, enfin tout le monde le sait d'ailleurs, enfin tous ceux qui vous connaissent, vous êtes un amoureux des voix. Pourtant, il n'y avait rien du tout, pas une seule voix chantée dans ce que vous m'avez proposé.
Tiens, c'est vrai ça.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Je sais pas, peut-être que c'était... Alors j'ai des périodes où je suis en cure de désintoxication vocale.
Ça doit être ça.
Je suis en détox, j'en ai marre de tomber amoureux des chanteuses et voilà quoi. Mais il se passe pas une semaine sans que j'en découvre une. Hier encore, j'étais jury dans un... plein et j'ai une jeune chanteuse incroyable, mais c'est fou quoi.
Mais en tout cas, vous m'avez fait de très belles propositions comme cette jeune compositrice Lily Boulanger dont nous écoutons D'un jardin clair.
Thank you.
Je défie nos auditrices, nos auditeurs de dater cette pièce, André Manoukian.
C'est la fin de l'école française, c'est sublime, c'est du jazz.
Oui, c'est vraiment du jazz.
Voilà. Bah, c'est ça, c'est Lily Boulanger, la frangine de Nadia Boulanger, élève de Fauré, on est au début du XXe siècle, elle meurt jeune et sa sœur Nadia se dit « j'aurai jamais le talent de Lily », elle abandonne la composition et elle se met à l'enseignement. Mais quelle bonne idée, pour une fois. Parce que elle va donner des cours à, ça va aller de Stravinsky à Quincy Jones, en passant par Michel Legrand et Leonard Bernstein, et Astor Piazzolla, et chaque fois, elle leur déclenche leur vocation.
Et c'est vrai que tous se réfèrent à cette immense pédagogue.
Immense pédagogue parce qu'elle ne donne pas de recettes, elle va chercher ce que les gens ont de meilleur en eux. Pourquoi ? Parce qu'elle ne dépend pas des autorités musicales françaises. Sa classe a été créée par les Américains après la Première Guerre mondiale. Elle a de compte à rendre à personne, elle est libre et elle remet la musique dans ses bottes. Quand elle écoute Piazzolla qui fait une œuvre un peu contemporaine comme ça, elle fait bof. C'est quoi ton instrument à toi, normalement? L'autre, tu fais, c'est le bandoneon, il a un peu honte, mais il y en a un là, tu veux pas m'en jouer? Il commence à jouer, mais c'est ça qu'il faut que tu fasses. À chaque fois, elle obligeait Michel Legrand à faire une fugue par semaine. Quand on entend une œuvre de Michel Legrand, ça module dans tous les sens. Il nous embarque aussi. Enfin, on entend l'influence. Quincy Jones va la voir en lui disant, Nadia, je veux tout apprendre sur les arrangements de cordes. Parce que dans son pays, comme il était black, il avait pas le droit d'arranger pour les instruments dits classiques. Dans les années 50, c'était ça, les États-Unis, et elle lui fait cette réponse magnifique. Quincy, il y a juste 12 notes. Tu dois savoir ce que les compositeurs ont fait avant toi de ces 12 notes, de Monteverdi à Maurice Ravel. Et il y a autant de musique à écrire juste avec 12 petites notes.
12 petites notes qui ont suffi à composer toutes les musiques du monde. C'est ce que vous écrivez dans votre livre qui paraît eh bien, aux éditions HarperCollins, et puis avec France Inter évidemment, sur les routes de la musique, qu'on a pu entendre aussi à l'antenne cet été sur France Inter, avec ce sous-titre du livre, à la recherche des notes qui s'aiment, qui nous font bien sûr penser au petit Mozart, 3 ans, qui répondait ça à son papa. André Manoukian, merci d'être venu dans cette émission partager vos choix musicaux avec votre pizza toute personnelle. En tout cas, on était ravis de vous entendre. Et puis j'informe nos auditeurs, à la recherche des notes qui s'aiment, c'est le titre d'un spectacle aussi que vous proposerez eh bien, au mois de décembre, les 13, 20 et 27 décembre au Théâtre de l'Œuvre à Paris. Il y a plein d'autres dates parce que vous avez 1000 métiers. André Manoukian, on mettra toutes les informations sur la page de l'émission sur francemusique.fr. Merci à Émilie Vallat, Pauline Boisaubert, Stéphane Touvenin. Et merci à vous. Eh bien, vous savez quoi, André, ça tombe bien. On va se quitter avec Mozart, justement, l'Allegro, premier mouvement, quelques mesures du moins de ce concerto pour clarinette en la majeure que vous avez choisi pour nous. Claudio Abbado à la direction de l'Orchestre Philharmonique de Berlin et Sabine Meyer. À réécouter sur francemusique.fr.